Cours de philosophie première par le père Marie-Dominique Philippe, le 2 décembre 1992 à Saint-Jodard.
Qu'y a-t-il de substantiel dans une communauté? La communauté ne revêt-elle pas toujours un caractère conventionnel, sauf au niveau de la famille qui se fonde sur la phusis et de la communauté chrétienne? Quel est l'acte au niveau de la communauté? Dans l'éthique, Aristote dit que le bonheur est la fin de nos activités, sans être pourtant un bien. Pouvez-vous nous dire si le bonheur est équivalent à l'entelecheia et le bien à l'energeia? Oui, c'est sûr, le bonheur, c'est ce que l'homme possède quand il atteint sa fin. Donc c'est bien l'entelecheia. Il y a tout l'aspect subjectif dans le bonheur. Le bien est ce qui finalise, ce qui m'attire. Alors, bon, ça, c'est assez net. Ce qui est le plus délicat, c'est ce qu'il dit avant. Qu'y a-t-il de substantiel? Faisons attention. Respectons les niveaux d'intelligibilité. Ne faisons pas la métaphysique de la communauté. Comprenez, une communauté, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble. Liés en vue de s'aider, de coopérer pour trouver un bien-être. C'est vrai, l'origine d'une communauté, et même d'une communauté religieuse. Quelques personnes qui s'unissent avec une finalité commune. Ou de la famine biologique ou spirituelle. On veut éviter d'attraper la peste. On veut éviter de mourir de faim. On se réunit et on lutte ensemble. Nous, on entre dans une communauté qui est déjà faite. Je parle par exemple d'un pays. On oublie l'origine. Alors, vous voyez, dire que c'est la communauté ne revêt-elle pas toujours un caractère conventionnel? Elle revêt, mais elle a quand même quelque chose de naturel. Conventionnel, vrai. Dire, il y a des lois. Est-ce que la loi est purement conventionnelle? Se fonde sur des lois naturelles, sur une finalité humaine. Donc, dire que c'est purement conventionnel, oui, ça fait penser à ce que je vous avais déjà dit. Ce religieux qui, ayant entendu que je disais que l'amour d'amitié expérience qui fondait d'une certaine manière l'éthique, la morale, disant mais l'amitié c'est purement conventionnel. On ne peut pas dire que l'amitié est purement conventionnelle si ce sont des relations d'homme à homme. situation où on essaie de découvrir dans l'homme ce qu'il a de meilleur, ce qu'il a de plus lui-même, donc ce qu'il y a de plus naturel en lui, naturel et spirituel. C'est pas conventionnel. Conventionnel, c'est artificiel. C'est quelque chose qui viendrait s'ajouter et qui ne toucherait pas la fin. Alors à ce moment-là, puisqu'il était religieux, je lui dis, votre vocation religieuse est-elle conventionnelle ? Il m'a dit oui. Alors je dis, bien, on se reverra dans 20 ans. Si c'est conventionnel, ça ne tient pas. Vous comprenez ? Est-ce que notre vocation religieuse est conventionnelle ? Ou est-ce qu'elle est divine ? Le divin n'est pas conventionnel. Alors, qu'il y ait un aspect de construction humaine dans toute communauté, c'est sûr. C'est l'œuvre des hommes. Et qu'elle se fonde sur la famille, ce qui montre bien qu'elle n'est pas purement conventionnelle. Et que la famille fait partie de la communauté humaine, et qu'elle a quelque chose de naturel. Mais, alors c'est pour ça que c'est là où vous ferez bien préciser, on va pas le faire maintenant, parce que c'est pas tout à fait le but, mais on va réfléchir sur cette question qui est importante, quel est l'acte au niveau de la communauté. Ça, on a le droit de se poser la question, c'est la question de la finalité. Est-ce que le bien commun est une fin naturelle ? Ou est-ce que le bien commun est purement conventionnel ? Cette phrase de saint Thomas que j'aime beaucoup, qui s'appuie sur Aristote du reste, « Homo ut homo est pars civitatis ». L'homme comme homme est parti de la cité. C'est comme homme. L'homme est naturellement un animal politique. Oui. Naturellement. Il y a un fondement naturel. C'est pas du pur conventionnel. Pur légal, du pur formel. Vous voyez, il y a une tentation de dire tout ce qui vient de la loi est formel et légal et conventionnel, c'est pas juste. La loi a un fondement naturel. L'homme est fait pour coopérer avec l'homme, et ceci c'est naturel. Et ça repose fondamentalement sur l'amitié et la concorde des citoyens. Quand saint Thomas dit que le bien commun, c'est la concorde, c'est à la suite d'Aristote, la concorde des citoyens, c'est pas conventionnel ça. C'est le développement normal de l'homme. Alors à ce point de vue-là, vous retrouvez non pas quelque chose de substantiel. Le substantiel, c'est la personne. C'est du côté de la finalité qu'il faut regarder. Côté de l'acte, ça c'est très juste. Donc, on y reviendra en quelques instants là-dessus. La cause matérielle et la cause efficiente n'étant pas des principes propres de ce qui est en tant qu'être. Hein, faisons attention. Ne disons pas la cause matérielle et la cause finale n'étant pas des principes propres. Ils sont des principes propres, mais pas au niveau de l'être. Donc la cause matérielle, la cause selon la matière, et la cause selon l'efficience, sont des principes propres pour l'activité humaine. Pour l'activité humaine, ils sont des principes propres. Ils sont des principes propres au niveau du devenir. Mais je n'ai pas de principes propres au niveau de la matière et au niveau de la cause efficiente lorsqu'il s'agit d'analyser l'être en tant qu'être. Peut-on dire qu'un transformation de la matière et l'efficience qu'il attend notre coopération dans son sens. Attention. L'homme doit se considérer comme ayant une nature humaine. L'âme est créée directement par Dieu dans un corps organique où il y a une correspondance entre le corps et l'âme. Par le fait même, le corps c'est la cause matérielle. Je ne peux pas faire de mon corps n'importe quoi. Mon corps est pour mon âme, et mon âme est créée par Dieu. Donc il y a au niveau de la nature, voyez, faisons bien attention, au niveau de la nature et de la personne humaine, il y a un respect de la cause matérielle du corps. Je dois respecter mon corps. Je n'ai pas le droit de transformer un fœtus comme je veux, puisque ce fœtus est fait pour l'âme. Et si je me mets à le transformer, il y aura une disproportion entre ce fœtus et son âme. Et j'aurai, au terme, un être complètement déséquilibré, mal formé, où il n'y aura plus aucune harmonie. Et c'est ça le danger. Dans quelle mesure pouvons-nous transformer un fœtus? Dans quelle mesure pouvons-nous agir sur un fœtus? On peut détecter certains défauts qui risqueraient de faire un déséquilibre, mais comme au niveau de l'embryon, rien n'est très distinct. La distinction se fait progressivement. On risque toujours, en voulant enlever ou modifier certaines choses, de toucher d'autres choses qui sont à l'état virtuel. Je me souviens de ce dialogue que j'ai eu avec un excellent chrétien, qui est un médecin spécialiste de cela. Il me posait des tas de questions parce qu'il le sentait bien, lui. C'est dans quelle mesure avons-nous le droit d'intervenir? Parce qu'on ne sait pas ce qu'on fait. On a une visée particulière pour, mais forcément, en intervenant, on intervient sur quantité d'une matière qui n'est pas encore entièrement organisée. C'était poignant, ce médecin, ce chirurgien, un médecin, est-ce qu'on a le droit? Il n'en comprend très bien. Alors voyez, faisons attention, ne disons pas que la matière, la cause matérielle est livrée à l'errance. La cause matérielle en elle-même est source d'errance. Mais le corps humain est déterminé par l'âme. Et la cause matérielle dans le corps humain est déterminée par l'âme. Dieu a créé, concret, dira saint Thomas, la cause matérielle. Donc elle relève de Dieu. Si elle relève de Dieu, je dois la respecter. Puis-je faire de la matière n'importe quoi? Puis-je désagréger la matière? Jusqu'où puis-je aller dans les transformations de la matière? Il y a la grande question philosophe, c'est toujours savoir où il y a la limite de la coopération et de l'exploitation. Pour moi, c'est la grande question constante. Le pouvoir de l'homme est arrivé à un niveau tellement profond qu'il ne peut plus discerner coopération et exploitation. Il la discerne dans les conséquences. Et ici, cette chose dont je vous ai déjà dit à certains qui m'avaient beaucoup frappé, c'est déjà ancien. Arrivant dans une ville où je devais aller prêcher au Carmel à minuit, je ne savais pas la direction et je demande la direction à quelqu'un qui était sur la route et c'était un apiculteur. On a causé longtemps. Il a terminé en partant. Mon père priait pour mes abeilles et priait pour moi qui suis un pêcheur. J'ai aimé que les abeilles aient été mises avant sur l'ordo caritatis. Priez pour mes abeilles, parce que vous comprenez, avec tous ces produits chimiques, les abeilles meurent. Ces petites bêtes. Et c'est vrai. On est en train de détraquer complètement l'équilibre de l'univers. L'art coopérans naturam, comme disait au Moyen-Âge, l'art qui coopère avec la nature n'exploite pas la nature. La différence entre cultiver et exploiter. On produit avec une force énorme en exploitant, mais les dents des petits-enfants et des petits-fils en seront agacées. Le déséquilibre économique, le déséquilibre au point de vue agriculture d'aujourd'hui, cette culture intensive, où est-ce qu'elle nous mène ? Elle nous mène, au bout d'un certain nombre d'années, à voir qu'il n'y a plus rien qui produit. La fécondation artificielle, où est-ce qu'elle nous mène ? On n'en sait rien. On n'en sait absolument rien. Et on s'y jette à cœur perdu. Et c'était cette réflexion mais merveilleuse de se vacher. Lui était profondément chrétien et poète en plus de ça. Quand il soignait ses vaches, il avait une poésie qui lui montait dans son cœur. Ces grosses bêtes sont quand même, selon la sagesse de Dieu, j'ai pas le droit d'en faire n'importe quoi et de les sélectionner d'une façon telle que je ne sais plus très bien si elles seront encore des bêtes du bon Dieu. Il réfléchissait à tout ça. Et puis alors il disait des choses très, très belles. Quand il s'agit de la fécondation, de la fécondité, c'est curieux que la sagesse de Dieu fait une profusion énorme. Alors il y a un gâchis énorme. C'est là où il y a le plus grand gâchis, extérieurement, vu de l'extérieur. Il disait, mais il y a peut-être une raison dans la sagesse de Dieu à tout ça. Il y a un sperme qui est fécondé, ou des quantités d'autres. Et nous, on veut tous les féconder. Est-ce qu'on ne va pas arriver à quelque chose qui aboutira à une infécondité ? Et l'efficacité n'est pas la finalité. Alors là, vous le touchez du doigt, hein, quand c'est comme ça. Mais on verra le résultat. Il sera trop tard. Et certains savants disent, il est peut-être déjà trop tard. Je l'ai entendu de très grands savants. Ce cher ami, qui est professeur à la faculté de médecine à Paris, qui a fait un court-métrage en montrant depuis le début du siècle tout ce que les grands savants avaient découvert et leur réflexion après cette découverte. Il m'avait invité à venir le voir, je pouvais pas. Alors je lui ai dit, je le referai pour vous une autre fois. Et ce court-métrage, c'était je crois une demi-heure, pas plus. Après la première, on l'a pris son film, il dit interdit de publier ça. Alors il a dit, mais quoi, on doit mettre le public au courant de ce qui se passe. Interdit. Parce qu'on ne veut pas voir où on en est. On veut dire tout va bien, tout va bien. Mais ces questions-là, je crois que le philosophe doit toujours poser. Il se fait haïr, vous savez, c'est comme. C'est ça. C'est dès que vous posez des questions comme ça, vous dites, oh, vous êtes pessimiste. Mais non, on est réaliste. La différence entre la coopération et l'exploitation. Vous voyez, la matière n'est pas livrée au bon plaisir de l'homme. Elle est concrée par Dieu en vue de la forme. Et elle n'est pas créée en premier lieu pour la forme artificielle. Elle est créée pour une forme naturelle. Notre univers a son harmonie, a son équilibre propre. Et l'homme n'a pas la toute-puissance à l'égard de notre univers. Il doit coopérer. Parce que la matière est ordonnée à une forme naturelle. Alors on le voit très bien pour l'homme, mais c'est vrai pour tout le reste. Oui. Alors ce qui est vrai de la matière est vrai de la cause efficiente. Puisque je transforme la matière par la cause efficiente. La cause efficiente, toute cause efficiente, demande d'être finalisée. Une cause efficiente qui est uniquement pour le plaisir de l'efficacité, je dis bien pour le plaisir de l'efficacité, c'est-à-dire pour la gloire de celui qui s'en sert, devient nocive. Toute causalité efficiente doit être finalisée. Finalisée dans le sens de l'homme. Et quand la cause efficiente est uniquement pour la gloire de celui qui a inventé cela, elle est mauvaise. Oui, c'est comme quand vous séparez de la matière de l'ordre qu'elle a vers sa forme naturelle. Alors, on peut perfectionner, mais on ne peut pas aller jusqu'au bout. C'est pour ça que, vous voyez, le sophisme là, c'est d'oublier qu'il y a. On commence par la philosophie de la nature, la philosophie du vivant. Et la métaphysique. Au niveau métaphysique, je ne peux rien dire sur la matière, si ce n'est qu'elle est pure puissance. Donc, je peux dire que la matière va offrir à l'homme une terrible séduction. Pure puissance dans les mains de l'homme. Et l'homme va pouvoir s'ériger en face de la matière comme un dieu, un démiurge, va faire tout ce qu'il veut. Attention, la matière est ordonnée à la nature, et dans la nature, la matière est déterminée en vue de telle forme. Et ceci, c'est de l'ordre du devenir. Et donc là, intervient la cause efficiente. Vous voyez, l'erreur de la scolastique décadente, c'est de faire de la métaphysique le tout. Alors, on regarde tout sous un regard soi-disant métaphysique, mais alors à ce moment-là, ce n'est plus l'être en tant qu'être qu'on regarde, c'est l'être de raison. C'est la logique. On confond logique et métaphysique. Alors on dit, puisque la matière est pure puissance, je peux en faire ce que je veux. Dieu me l'a livré. Est-ce que Dieu vous a livré le corps humain? Est-ce que Dieu vous permet de faire du corps de l'homme tout ce que vous voulez? De voir si tous les mythes des anciens sont réalisables ou pas, les mythes des anciens, c'est-à-dire une tête d'homme, une queue de poisson. Les hommes essaient aujourd'hui de voir si tout ça n'est pas réalisable. Est-ce qu'ils ont le droit? Est-ce que est-ce qu'on est démurge? Est-ce qu'on a le droit de créer un nouveau monde, soi-disant de créer? Ou est-ce qu'on va alors, à ce moment-là, à la destruction d'un monde qui existe? Je dis la grande question auquel on doit tout le temps se poser. Où il y a limite entre coopération et exploitation? Ça se voit très bien dans un champ pour un cultivateur. Et un bon cultivateur sait ce que c'est que la différence entre exploiter et cultiver. Et là, on voit très bien l'intervention des finalités. Vous voyez là, donc, il faut beaucoup réfléchir là-dessus. Hein. Quand je dis qu'il n'y a pas de cause propre de la matière au niveau métaphysique, je ne libère pas la cause matérielle en la remettant au bon plaisir et à la fantasia de l'homme. Parce que mon regard sur la matière n'est pas seulement métaphysique. Le regard sur la matière, il est philosophie de la nature, philosophie du vivant. Et philosophie humaine, éthique, et politique, et artistique. Toutes ces parties de la philosophie regardent la matière comme une cause propre. Et donc respectent cette cause propre dans un ensemble, puisque la cause matérielle est toujours ordonnée à la cause formelle et soumise à la cause efficiente. Je ne peux pas isoler une causalité des autres causalités. C'est le fruit d'une analyse. Alors je continue, puisqu'il faut arriver au moment de ce que nous considérons cette année-ci. Je vous disais la dernière fois comment la seconde grande induction, c'est la découverte de l'être en acte. Et dès que je découvre l'être en acte, je découvre l'être en puissance. Si mon intelligence était suffisamment forte, je pourrais découvrir l'être en acte dans n'importe quel mouvement, dans l'expérience de n'importe quel mouvement physique, dans n'importe quelle réalité physique, dans n'importe quel vivant, et en moi. L'acte est partout présent dans notre univers, puisqu'il existe. Mais j'ai beaucoup de peine à découvrir l'être en acte au niveau de l'être, comme tel, au niveau philosophie première, c'est-à-dire non pas de l'isoler et de le séparer du devenir, mais de le distinguer du devenir, parce que dans notre monde physique, l'être en acte est toujours lié au devenir. C'est pour ça que la première conquête philosophique, ça a été la distinction du devenir et de l'être. Et c'est une conquête que chacun d'entre nous devons faire. Là, on n'a pas le droit de la répéter. Nous devons découvrir vraiment dans notre expérience la différence entre ce qui est mu et ce qui est. Il faut arriver à cette distinction-là. Ça a mis du temps. Hein. Ça a mis plusieurs siècles à l'humanité. Et nous devons faire ça, nous, en quelques jours. Mais nous sommes très intelligents, alors nous devons le faire. Distinguer ce qui est mu et ce qui est le devenir et l'être. Distinguer se meut et son acte. C'est-à-dire distinguer dans ce qui émeut son âme. Parce que l'âme est l'acte du corps pour l'homme. Donc je peux par l'âme arriver à l'être en acte. Comme pour la substance. Il faut arriver à cette conquête de l'intelligence qui arrive à discerner, distinguer, non pas séparer, l'être en acte du tenir et de l'opération vitale. Et une fois que mon intelligence atteint l'être en acte, comme la fin de ce qui est comme être, ce qui est ultime, je sépare l'être en acte de l'être en puissance. Et je saisis l'être en acte pour lui-même. Et je dépasse les états imparfaits et parfaits pour saisir ce principe propre de ce qui est comme être. Et je saisis telos, la fin de ce qui est. Ça, chacun d'entre nous, hein. C'était ce vieux professeur, c'est le père Doux qui me disait toujours ça. Enfin, je ne l'ai pas connu, mais le père Doux connaissait un vieux dominicain qui disait toujours à ses étudiants, quand il enseignait la métaphysique, « Je peux bien vous donner l'intelligible, mais je ne peux pas vous donner l'intelligence. » Il n'y a que Dieu qui donne l'intelligence. Moi, je peux vous donner l'intelligible. C'est vous qui devez être intelligent. C'est juste. Et puis paraît-il qu'à ce moment-là, Bertou disait tout le temps, il y avait une basse-cour à côté quand il faisait ça, un grand marat. Il y avait une basse-cour. Et alors à ce moment-là, il y avait un animal de la basse-cour qui se mettait à faire à crier de toutes ses forces. Alors on entendait l'être en acte par le cri de l'animal. L'être en acte distinct de l'être en puissance. Distinguer les deux. Mais comme on distingue la substance de l'accident, on distingue l'être en acte de l'être en puissance. Ça, c'est la grande victoire de l'intelligence. Je comprends qu'à ce moment-là, l'intelligence peut chanter son cri de gloire. J'ai saisi l'être en acte. C'est l'induction la plus parfaite. Je crois que quand l'intelligence saisit l'être en acte, l'intelligence se libère de toute potentialité. Et elle devient capable de découvrir l'être premier. C'est par l'être en acte qu'on découvre l'être premier. C'est normal. C'est pas par la substance. Spinoza a voulu découvrir l'être premier par la substance. Alors il est tombé dans le panthéisme. Pourquoi ? Parce que la substance reste immanente. L'être en acte n'est pas immanent. Il est ultime, il est la fin. Et c'est pour ça que le principe de causalité finale au niveau métaphysique est le seul principe propre qui me permet de découvrir un être absolu et premier. Ce n'est pas par la substance. Alors voyez, là, vous découvrez, si vous avez fait cette découverte, vous découvrez la confusion de la scolastique décadente depuis Suarez jusqu'à Heidegger. C'est quand même pas mal, hein. Une confusion qui a demeuré depuis Suarez jusqu'à Heidegger. Et même le bon père Garrigou Lagrange est tombé dedans. C'est de croire que c'est par la causalité efficiente qu'on découvre l'existence de Dieu. Et ceci parce que ils premier, comme la voie d'accès la plus merveilleuse, la plus idoine pour nous. Aristote parle en effet de cause efficiente. Mais n'oublions pas que livre 7 et livre 8, c'est de la critique. Ce n'est pas de la métaphysique. C'est de montrer tout simplement que notre univers, s'il n'y avait pas d'être premier, serait inintelligible. Notre univers physique, c'est ça que montre le livre 7 et 8. Ce sont des livres critiques qui montrent que si je nie l'existence d'un être premier, notre univers devient inintelligible. Autrement dit, c'est de montrer que l'intelligibilité de ce qui est mu n'est pas une intelligibilité première. Elle présuppose l'intelligibilité de ce qui est. Je ne peux pas remonter à l'existence d'un être premier par la causalité efficiente. Je regrette, en disant ça, je vais tomber toutes les apologétiques. Depuis Suarez, qui ont voulu, par la contingence, prouver l'existence de Dieu. Et là, Kant a raison, quand il montre que c'est impossible. Ce n'est que par la causalité finale, et donc par l'être en acte, que mon intelligence devient capable de découvrir un être séparé, un être premier séparé du mouvement. Et un être séparé du mouvement qui cause par la finalité. C'est ça qui est extraordinaire. Et que je découvre par la finalité.
Je ne comprends pas, parce que si le monde n'est pas intelligible sans Dieu comme cause efficiente, pourquoi est-ce qu'on n'est pas obligé d'aller à l'intelligence qui doit obliger?
Parce que vous ne pouvez pas passer de l'intelligible à l'être. C'est l'ontologisme. Oui. Et l'apologétique repose sur un ontologisme. Et c'est pour ça que l'apologétique fait le lit des idéologies athées qui ont la même erreur et qui restent dans l'ontologisme. On passe de l'intelligible à l'être. Vous pouvez pas. Mais vous pouvez montrer. Vous pouvez montrer par la causalité efficiente. Vous pouvez montrer par la causalité efficiente que l'intelligibilité du mouvement ne peut pas s'expliquer entièrement par le mouvement. Ce qui est ému par un autre. Ah ! Il est ému par un autre. Alors s'il est ému par un autre, ça prouve que ce qui est n'est pas ému par le mouvement. Donc, ce qui est ému n'a pas d'intelligibilité propre. Il est intelligible. Mais son intelligibilité est mendiante d'un autre, de l'être. Oui. Cette découverte de l'être en acte est quelque chose de très, très particulier. Et au fond, très difficile. C'est pour ça qu'immédiatement, le philosophe doit montrer les diverses manières dont l'être en acte rayonne sur toute la philosophie. Est-ce que c'est l'heure? Vous tapez, hein? Parce que j'ai peur que vous soyez dans... Et parce que j'ai l'impression qu'ils attendent leur petit déjeuner. C'est un aspect critique, ça, parce qu'ils ne peuvent pas prouver le petit déjeuner par leur désir. Autrement, c'est l'ontologisme. J'ai faim, donc le petit déjeuner existe. Vous voyez, voilà. Ça, c'est l'ontologisme pratique. choses. Alors, on dit c'est merveilleux. Mais je prends exprès ça, parce que le désir du petit déjeuner, très bien, c'est pas parce que vous avez le désir du petit déjeuner que le petit déjeuner existe. Il faudra une autre causalité pour faire que le petit déjeuner existe, qui ne sera pas votre désir. Mais quand vous êtes dans l'ontologisme parfait, vous dites j'ai ce désir, donc ça existe. J'ai le désir du bonheur, donc Dieu existe. Parce qu'au fond, le petit déjeuner absolu, c'est le bonheur. Alors, tout de suite, le philosophe va essayer de préciser où se trouvent ces diverses modalités de l'être en acte.
C'est sûr que l'essai, c'est l'acte. Donc,
L'être en acte explique l'essai. Donc, l'essai, c'est l'acte, à tous ces indices, de ce qui est capable d'exister. C'est donc l'acte de ce qui est en puissance à exister. Qu'est-ce qui est en puissance à exister? Qu'est-ce qui est capable d'exister? C'est l'essence. L'essence, c'est quoi? C'est la détermination première de la réalité. Alors on pourrait dire, voyez, que cet essai correspond à la substance. La substance, en tant qu'elle est capable d'exister, la substance première. C'est pas la substance principe. La substance principe est en acte. En puissance. Mais la substance, c'est vrai, c'est ce qui est capable d'exister par soi. Puisque on a dit que la substance peut subsister, donc elle est capable d'exister par soi. Le vrai, c'est l'acte du jugement. Le vrai. Formalise le vrai en disant la vérité. Et la vérité, c'est l'acte du jugement. C'est là où le vrai est le plus formalisé, le plus vrai. Le bien, c'est l'acte de la volonté. Ou de la vitale, c'est l'acte des puissances vitales. Le mouvement, c'est l'acte du corps, de ce qui est mu, de ce qui est capable d'être mu. Vous avez donc là, si vous voulez chercher, je vous donne le fruit de l'analyse. C'est intéressant d'avoir ça. Les cinq modalités de l'acte. Cherchez bien, vous n'en trouverez pas d'autres. Mais c'est intéressant de voir ça. Voyez, l'acte au niveau métaphysique, c'est sûr, l'essai, la substance. L'acte au niveau du jugement. Alors, le jugement, je l'étudie en critique. Je l'étudie en philosophie du vivant. Je l'étudie en métaphysique. Le bien, c'est toute l'éthique. L'opération vitale, la philosophie du vivant. Et le mouvement, la philosophie de la nature. Vous avez donc l'essai, qui est l'acte au niveau de l'être. Le vrai et le bien, c'est l'acte au niveau de l'esprit. L'opération vitale, c'est l'acte au niveau de la vie. Et le mouvement, l'acte au niveau du monde physique. Le monde physique est en acte par son mouvement. C'est important de découvrir ces cinq modalités de l'acte parce que vous découvrez par le fait même les cinq modalités de la puissance. Et en réfléchissant, vous découvrez les cinq modalités. Les cinq modalités. Principe de finalité. Tout ce qui est en puissance est ordonné à l'acte. Tout ce qui est en puissance dépend de l'acte. Et alors, si vous réfléchissez bien, vous avez donc là les cinq structures fondamentales. intéressant de voir que les cinq voies de l'existence de Dieu, de la découverte de l'être de Dieu, reposent sur les cinq modalités de l'acte. Il n'y a pas d'autre moyen d'atteindre l'existence de Dieu que par la finalité, et donc par les cinq modalités. La prima via, la seconda via, la tertia via, la quarta via, la quinta via. Les cinq voies de Saint Thomas. Hein. Prima, seconda, tertia, quarta, quinta. Et tant que vous n'avez pas découvert ça, les cinq voies de Saint Thomas sont inintelligibles. Vous les acceptez parce que Saint Thomas l'a dit, mais c'est inintelligible. C'est le jour où vous découvrez ces cinq modalités de l'acte et les cinq modalités de la puissance, que vous découvrez comment tout ce qui est en puissance est ordonné à l'acte, et vous découvrez par le fait même les cinq voies par lesquelles vous aboutissez à l'être premier. Saint Thomas les donne au point de vue critique, ici je vous les donne au point de vue métaphysique. Donne le fondement métaphysique. Donc là, on est en face de quelque chose d'extrêmement important. C'est toute la philosophie, toute l'induction de l'être en acte qui permet à l'intelligence de découvrir qu'il existe nécessairement un être premier. C'est par l'acte. Et vous voyez, c'est une crête. C'est vraiment le sommet. Alors, puisque je ne peux pas développer plus, on ne peut pas aller plus loin, on essaie là de découvrir ce sommet, l'être en acte que tous appellent Dieu. Vous voyez tout de suite qu'il ne faut surtout pas confondre la découverte de l'être en acte au terme de l'induction avec la découverte de l'être premier, qui est acte pur. Je dis ça parce que certains ont confondu en disant qu'Aristote, en découvrant l'être en acte, découvre Dieu. C'est faux. L'être en acte, c'est le principe selon la fin de ce qui est en tant qu'être. Tandis que la découverte de l'être premier, c'est la découverte de celui qui existe, ce n'est pas un principe. Ce n'est pas un principe propre. Mon intelligence atteint directement par l'induction. Je touche ce principe propre qui est la fin. Par une démonstration a posteriori, je pose l'existence de l'être premier. C'est très différent. Et ça, c'est très important à bien comprendre. Et ceci, c'est un rappel hein, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Ça doit éveiller leur intelligence pour montrer que toute la métaphysique aboutit à la découverte de l'être en acte, distinct de l'être en puissance, et donc la découverte du principe de finalité au niveau de l'être. Et ceci me permet de pouvoir poser d'une manière nécessaire